Bonjour à tous et bienvenue dans Homme de ménage. Bonjour Paul.
Bonjour.
Alors Paul, aujourd'hui tu as décidé de nous parler d'une question qui était un ancien sujet de dissertation que tu as retrouvé.
C'est ça. Alors c'était un sujet de dissertation que j'avais eu il y a quelques années de ça, il y a 7 ans à peu près.
Oui.
Et qui était le suivant, si ma mémoire est correcte. Le travail est-il aliénant ?
Ok.
Alors c'est une question qui paraît... qui tout de suite nous pousse vers Marx, forcément, parce que le concept d'aliénation, aujourd'hui, même dans le langage courant, on doit beaucoup à ce concept, on le doit à Marx, notamment un écrit, enfin à des écrits qui sont les manuscrits 44. Alors, c'est, en plus, ce texte, ces textes, du coup, c'est des manuscrits, ils sont assez intéressants. C'est un moment où Marx était à Paris, après avoir être parti d'Allemagne quand le régime prussien a interdit la Gazette Rhénane, le journal où il travaillait. Et c'est un moment où beaucoup d'intellectuels, notamment jeunes hegéliens, ont dû fuir l'Allemagne. Et du coup, Marx était à Paris à ce moment-là, et il s'est mis à... En fait, il a commencé à s'intéresser à l'économie politique à ce moment-là. Et il a pris des notes. C'est aussi le moment où il a écrit son texte, dont j'ai oublié le titre, c'est terrible, sur Hegel. Et c'est un moment où, du coup, il s'est intéressé à ce concept d'aliénation, qui est un concept qui, premièrement, a été un peu créé par Hegel, justement, puis repris par Feuerbach. Feuerbach, je ne sais jamais comment prononcer ça, je suis désolé. Mais Marx, il lui a vraiment donné une patte spécifique. Il y a quatre caractéristiques de l'aliénation chez Marx. On va lire après une petite citation pour expliquer ça.
On avait brièvement évoqué l'aliénation dans le podcast sur Henri Lefebvre et le matérialisme dialectique, mais je veux bien que tu nous en
voilà,
parles.
Voilà, alors en gros, pour résumer les quatre caractéristiques de l'aliénation, du travail aliéné chez Marx, c'est... Et dans ce texte du manuscrit de 44, il fait un peu un approfondissement à travers ces quatre caractéristiques. Donc il y a d'abord l'aliénation de l'objet. Donc c'est le fait que quand l'ouvrier, le produit de son travail ne lui appartient pas, il est étranger à lui-même. Ensuite, il y a une aliénation du travail. En fait, sa propre activité est étrangère à lui-même. Donc on se lève le matin, on ne sait pas pourquoi on va travailler. Ça n'a pas de sens ce qu'on fait. Ensuite, et là ça devient un peu plus compliqué, là on sent l'approfondissement, c'est que... Et là, il y a un concept qui vient clairement de Feuerbach, c'est l'être générique, le concept d'être générique. C'est que notre être générique, à cause de l'aliénation, nous paraît étranger. Notre conception de l'espèce humaine, de l'homme, nous paraît étrangère. Et on en perd son essence. Et alors là, en plus, ça va nous permettre un peu, on reviendra après là-dessus, de parler du fait que, pour Marx... le travail permet d'humaniser la nature, et c'est une conception essentielle du travail. Et ensuite, la quatrième caractéristique de l'aliénation, c'est si l'espèce nous est étrangère, alors l'autre aussi, et donc il y a un passage de l'homme, de l'autre, donc de l'homme comme collaborateur à l'homme, l'étranger, enfin l'autre, comme concurrent. Et c'est le quatrième niveau d'aliénation, enfin, c'est ce qui fait le travail aliéné pour Marx.
D'accord.
Alors tout ça, c'est tiré d'un texte des manuscrits de 44 que je vais vous lire maintenant. Donc, je cite. « En arrachant à l'homme l'objet de sa production, le travail aliéné lui arrache sa vie générique, sa véritable objectivité générique. Et en lui dérobant son corps non organique, sa nature, il transforme en désavantage son avantage sur l'animal. » Par conséquent, le travail aliéné produit les effets suivants. Il transforme l'être générique de l'homme, sa nature, aussi bien que ses capacités intellectuelles, en un être qui lui est étranger, un instrument de son existence individuelle. Il l'aliène de son propre corps ainsi que de la nature intérieure. Il l'aliène de son existence spirituelle, de son essence humaine. Rendu étranger au produit de son travail, à son activité vitale, à son être générique, l'homme devient étranger à l'homme. Lorsqu'il se trouve face à lui-même, c'est l'autre qui est face à lui. D'une manière générale, la thèse selon laquelle l'homme est rendu étranger à son être générique signifie que les hommes sont rendus étrangers les uns aux autres et que chacun est rendu étranger à l'essence humaine. Alors, ce qui est vraiment intéressant dans ce texte de Marx et dans la conception de l'aliénation de Marx, c'est que pour Marx, le travail non aliéné est la condition sine qua non d'une connaissance de l'essence humaine par rapport à la nature. Là, on retrouve aussi une conception qui, plus tard, a été un peu élaborée par Hannah Arendt, dont on reparlera un peu plus tard, sur le fait que le travail c'est vraiment l'activité humaine qui est dans le cycle de la nature, qui est vraiment le travail du champ, quoi. C'est vraiment le subvenir à ses besoins naturels. Il y a cette citation que je vais retrouver de Hannah Arendt, voilà, qui dit que le travail, c'est un temps cyclique, sans début ni fin, où nous sommes interchangeables, un cycle naturel de la vie et de la mort qui renouvelle indéfiniment les individus indifférents aux personnalités. Et donc vraiment, c'est cette conception du travail chez Marx qui... En fait, moi, c'est pour ça que j'ai trouvé que ce sujet de dissertation, il était particulièrement intéressant. Je m'en rappelle encore de cette dissertation à la fac. C'était un moment assez joyeux d'écriture. Parce que, en fait, au début, on se dit « Ah bah oui, le travail, c'est aliénant. » Parce que, bon, on pense à Marx, la société capitaliste, le travail aliéné dans la société capitaliste. Et puis après, on se rend compte que bah, Marx, il nous dit qu'il y a un travail non aliéné. Chez Marx, il y a le potentiel d'un travail non aliéné, et il en parle souvent, par exemple, je trouvais ça intéressant, dans le podcast que tu as fait, Hotman, sur Marx et l'écologie, ouais. Il y a cette idée d'un travail non aliéné, en harmonie avec la nature, etc. Mais c'est une réalité qui n'a jamais existé. Et beaucoup de philosophes conçoivent le travail comme un espèce d'idéal de lien avec la nature, qui... un état qui n'a jamais existé, en fait, et dans lequel on vivrait, j'ai l'impression, en tout cas en lisant Marx, que Marx, il propose il fait l'erreur, à mon avis, de proposer un état d'exception, où le travail aliéné serait un état d'exception de l'activité humaine. Comme dirait Walter Benjamin, je vais vous citer sur le concept d'histoire, la 8e thèse sur le concept d'histoire, « La tradition des opprimés nous enseigne que l'état d'exception de lequel nous vivons est la règle. » C'est la première phrase de cette thèse.
D'accord.
Et je pense que, appliqué à la conception historique du travail dans nos sociétés occidentales, nous montre que concevoir l'activité humaine principalement comme un travail, et bah, probablement ne nous permet pas de nous émanciper de l'aliénation que le travail crée. Alors, du coup, par exemple, Hannah Arendt, pour un peu échapper cette voie sans issue du travail comme du travail idéal, va proposer ces trois catégories de la vita activae, de l'activité humaine, qui sont le travail, l'œuvre et l'action. Où le travail, c'est vraiment juste cette espèce de cyclicité de la nature. Alors, il y a un côté très péjoratif, d'ailleurs, hein, du travail chez Arendt, mais où ça nous permet de subvenir à nos besoins, c'est faire pousser les carottes et ramasser les œufs, et c'est vraiment fabriquer des outils de base.
Ce soit ça, le travail.
Voilà, pour Hannah Arendt, c'est le travail. L'œuvre, c'est la création. C'est la maison humaine édifiée sur Terre, pour Hannah Arendt. Et l'action, c'est vraiment le geste, c'est l'innovation, quoi. C'est le geste d'innovation, l'action, pour Hannah Arendt. Je ne suis pas un spécialiste d'Hannah Arendt, donc j'ai peur un peu de dire des bêtises, mais sa conception du travail, il me semble, elle est vraiment extrêmement limitée, elle est très péjorative. Et elle est vraiment rattachée à ce concept de nature. Et en fait, c'est quelque chose qui est relativement courant. Par exemple, je pense qu'il y a très peu de penseurs marxistes traditionnels, on va dire, qui pensent le travail autrement qu'un travail aliéné ou un travail idéalisé en accord avec la nature. Et en fait, ce travail idéalisé, là je vais faire référence à Pirado, qui est un auteur que j'aime beaucoup, qui dans Le Voile d'Isis, décrit justement le fait que le concept de nature, il a été beaucoup construit sur le concept de travail. Alors il y a cette espèce de voix sans issue, où pour expliquer le concept de travail non aliéné, on est obligé d'expliquer le concept de nature de manière idéalisée, et en fait pour expliquer le concept de nature, on est un peu obligé de revenir au concept de travail. Où pour comprendre la nature, la société occidentale a globalement compris deux voies, la voie romantique et la voie prométhéenne. Donc pour comprendre la nature, pour lever le voile d'Isis, le titre du livre c'est le voile d'Isis, il faut soit couper des arbres, faire péter des montagnes pour extraire des minerais, ou il faut la contempler sagement et écrire des poèmes. Et en fait, c'est la même dialectique, par exemple, on retrouve ça exactement chez Hannah Arendt, entre la vita activea, donc la vie active, et la vita contemplativa. Et il y a une espèce de dialectique chez Arendt entre les deux, qui est vraiment le classique du romantique contre le prométhéen. Mais ce que Pierre Hadot montre dans Le Voile d'Isis, c'est que cette conception prométhéenne, en fait, et cette conception romantique, n'arrive jamais à construire un concept de nature qui est tangible. En fait, la nature n'a rien de tangible. Ça n'existe pas. Et aujourd'hui, on voit des penseurs, même des penseurs marxistes, qui vont penser l'écologie, notamment, ils vont penser le non-humain pas du tout comme une unité. En fait, on ne peut pas concevoir le non-humain comme quelque chose d'unitaire et de massif. Le concept de nature, il est extrêmement abstrait. C'est probablement la catégorisation la plus large possible pour tout ce qui est non-humain. Et du coup, c'est une catégorisation qui ne nous permet pas de penser grand-chose. Quand on pense un peu à la philosophie et à l'activité de catégorisation qui est nécessaire à la pensée, catégoriser en gros, ça sert pas à grand-chose. Faut mieux se rapprocher aux fins, faut aller vers la finesse, sinon on arrive à des concepts comme l'Orient, largement critiqué par Édouard Saïd par exemple, ou comme la nature, et ces concepts très généraux dans l'histoire humaine, dans ma conception en tout cas, et par exemple chez Pierre Hadot ou chez Saïd, pour l'orientalisme, un autre sujet, c'est des concepts, c'est des catégorisations qui vont permettre l'abject. En fait, qui vont vider de sens le concept. Donc par exemple, chez Saïd et chez Pierre Hadot, là, je fais un parallèle entre les deux parce que je trouve que c'est assez intéressant, où Saïd, par exemple, il décrit l'Orient chez les Occidentaux, quand ils décrivent l'Orient. Alors en plus, déjà, l'Orient, en termes géographiques, c'est quand même assez gigantesque. Et ben, c'est vide. Il n'y a jamais d'humains. Ou alors, les humains, ils n'ont pas trop le droit d'être là. Il n'y a pas d'habitants. Il n'y a pas de femmes, il n'y a pas d'hommes.
C'est une nature, finalement.
Voilà, c'est ça, en fait. C'est pour ça que je fais un peu le parallèle. Et chez Pierre Hadot, c'est pareil. La nature, eh ben, il n'y a pas le bon vieux chêne qu'on croise. Il n'y a pas le caillou spécifique. Il n'y a pas tel oiseau. C'est la nature. C'est un vide. Et ce vide conceptuel, en fait, il permet l'abus, il permet la domination, il permet l'exploitation, notamment, de la nature.
Bah d'ailleurs, dans le marxisme, c'est le rôle historique de l'homme que de dompter la nature, justement.
Voilà, c'est ça. Mais le marxisme historique, c'est typiquement une philosophie prométhéenne à 100%, où c'est la libération de l'homme se fera par le travail de la nature, et la connaissance de la nature se fera par le travail. Or, aujourd'hui, on peut le voir par la voie sans issue climatique dans laquelle on est, que ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, il y a des penseurs marxistes hétérodoxes qui vont penser le non-humain de manière un peu plus alternative, qui vont justement critiquer cette conception du travail chez Marx. Et en fait, moi je pense aujourd'hui qu'on est obligé d'arriver à une conception du travail où le travail ne peut pas être séparé de l'aliénation. Parce que l'exploitation de la nature, c'est une forme d'aliénation de nous-mêmes. Parce qu'en fait, on détruit nos propres environnements. En fait, quelque part, l'autorisation implicite qui est créée par ce concept de nature à l'exploitation est, pour moi, en soi, quelque chose qui, quand on reprend la catégorie d'aliénation de Marx, en fait, nous aliène de notre essence, de notre capacité à vivre, bon, peut-être pas en harmonie, mais de vivre de manière, de cohabiter en tout cas, de manière positive avec le non-humain.
C'est très intéressant parce que récemment j'ai entendu parler des gens de la droite prométhéenne à propos d'écologie, et la première remarque que je me suis faite, c'était que c'était justement, c'était très marxiste dans l'approche. C'est-à-dire, on trouvera des solutions technologiques pour résoudre la crise écologique, et de toutes les façons, c'est le rôle de l'humain que de mettre la nature à ses pieds, de la servir, c'est son rôle historique. J'ai trouvé que c'était très marxiste.
Ah bah oui, c'est parce que, en fait, Marx, il s'inscrit dans une... Il n'est pas... Même si on peut respecter le génie marxiste, enfin le génie de Marx sur plein de choses, je pense que Marx, il a plein de zones d'ombre aussi dans sa pensée, et il est quand même héritier aussi d'une pensée occidentale qui a ses dérives, qui a ses zones d'ombre, encore une fois, et c'est intéressant parce que ouais, enfin Marx et encore une fois la pensée marxiste après lui, la pensée plutôt orthodoxe, marxiste orthodoxe, va vraiment penser la nature comme cette espèce de source de libération parce qu'on peut l'exploiter. Enfin, et c'est en fait, moi je pense que justement le travail, dans le concept de travail, il n'est pas séparable du travail de productivité par exemple. On ne peut pas vraiment travailler sans être productif. Et du coup, et la productivité, à mon avis, amène à l'aliénation. Et du coup, tout de suite, on se rend compte de la complexité de séparer, de comprendre l'activité humaine au-delà du travail, et de comprendre l'activité humaine, une activité humaine qui ne serait pas aliénante, ni pour l'humain, ni pour le non-humain. Et c'est là que moi je pense qu'il est important de faire un peu de catégoriser justement les choses différemment, et de créer, de réutiliser ce concept de faire. Au-delà du travail, le travail est une sous-catégorie du faire. Et en fait, du coup, il faudrait, c'est à nous après ensuite d'imaginer un concept du faire qui ne serait pas aliénant, et une société qui permettrait, parce que c'est aussi une question collective, qui permettrait de ne pas être aliéné en faisant des choses. Et faire des choses, quand on est humain, ça veut globalement dire transformer le non-humain. On a beaucoup de mal à faire des choses avec de l'air.
Ouais, mais d'accord. C'est la question que je voulais te poser. Est-ce que c'est possible, à ton avis, de penser une société sans travail ?
Eh bien, c'est une très grande question. Probablement, et en fait, moi j'ai sûrement envie de dire, probablement ça existe.
Ouais.
Ça a existé. Des sociétés non occidentales qui ont pu arriver à des conceptions du faire qui n'étaient jamais dans un objectif de productivité, jamais dans un objectif de connaissance de la nature. Après, je ne suis pas assez calé en ethnologie ou en anthropologie pour savoir si ça a existé, mais ça doit être possible d'arriver à une conception et à penser l'activité humaine au-delà de l'exploitation aveugle et productiviste de la nature. Et déjà, en fait, je pense que la première étape, c'est de surplanter le concept de nature par d'autres concepts. Déjà, le remplacer par le concept de non-humain, et ensuite diviser cette catégorie gigantesque de non-humain avec d'autres catégories de vivants, et se rapprocher le plus possible de catégorisations qui ont une réalité locale positive. En fait, on a du mal, je viens de commencer un livre, donc j'ai oublié le titre qui parle de ça, je me rappellerai du titre la prochaine fois et je vous ferai un podcast là-dessus, qui parle justement du non-humain et du fait que la société occidentale est dans notre histoire, on a jamais réussi à conceptualiser le non-humain de manière qualitative, on a catégorisé de manière biologiste, mais on n'a jamais conceptualisé le non-humain au-delà d'une catégorie gigantesque permettant l'exploitation. On n'a jamais vraiment dépassé cette zone d'ombre.
Après, il y a la notion de contradiction chez Marx, de conflit permanent qui permet à l'homme d'avancer. Et justement, la question qu'on peut se poser, c'est que par exemple, je te dis une bêtise, est-ce que construire une digue pour éviter une inondation, est-ce que c'est une forme d'aliénation? Parce que tu transformes, tu agis sur la nature.
Bah c'est une grande question. Est-ce que les Pays-Bas ont raison d'être? C'est ta question.
Mais Excellente question.
Le problème, c'est...
C'est une caricature, mais c'est pour justement poser la question de est-ce qu'on est capable de vivre sans, finalement, agir sur la nature,
Probablement pas, parce que tout, mais justement, en fait, c'est qu'on agit sur la nature. On a, en fait, c'est justement, là, encore une fois, tu utilises le concept de nature. C'est très dur de ne pas l'utiliser, d'ailleurs. Ouais. Mais c'est qu'en fait, on agit, mais tout, un arbre agit sur son environnement.
C'est pas faux.
Il y a une transformation permanente de l'environnement. C'est juste que la transformation qui est imposée par l'humain occidental, il y a d'autres civilisations qui ont aussi un impact négatif, hein, mais, et la civilisation occidentale dans son ensemble et dans toutes ses spécificités et toutes ses sociétés spécifiques n'a pas inventé ça non plus. Mais la façon très spécifique qu'on a en tant qu'espèce aujourd'hui, en tant que civilisation plus spécifiquement, d'utiliser la nature pour l'exploiter et comment on transforme notre environnement, pose des questions.
Ouais.
Et par exemple, on voit d'autres grands transformateurs de la nature, les castors, et ben, ils transforment de manière vachement plus positive leur environnement. Globalement, un barrage de castors fait beaucoup de bien. Créer des zones humides qui sont extrêmement positives. Et pourtant, il y a une transformation massive. Un castor, ça abat pas mal d'arbres par jour. Hein. Mais ils sont beaucoup plus dans une... et on va pas commencer à parler de symbiose, parce qu'en fait, il n'y a pas de symbiose. C'est encore une fois, si on commence à parler de symbiose, on recommence à parler de nature, ouais. Et on recommence à retomber dans ce poncif de cette espèce de catégorie gigantesque de nature.
Qui serait harmonieuse.
Voilà, et qui serait déifiée, en fait. Et on tomberait du coup dans le poncif romantique de la contemplation et on n'arriverait pas à grand chose non plus. Et alors moi je trouve que, bon, j'ai aussi ce travers de, j'aime beaucoup ces auteurs, où je trouve qu'il y a ce truc un peu intéressant qu'il n'a pas assez poussé à mon avis, de Bachelard, où il parle justement de cette espèce de contemplation active du travail de la main, de la transformation de la matière positive. Et c'est de là qu'un peu est venue cette réflexion, et je me rappelle que j'avais utilisé ça parce que je venais de lire La Terre et les rêveries de la volonté à l'époque quand je faisais cette dissertation, où j'étais arrivé, justement, ma dernière partie de dissertation, c'était de me dire que le travail social, le travail en tant que société, a l'air de globalement être aliénant systématiquement. Mais Bachelard, il donne à voir quand même le potentiel d'un travail solitaire, d'une transformation de la matière, qui est vécu dans un instant long, qui n'est pas poussé par l'impératif productif, mais qui est poussé par la curiosité de la main et par cette dialectique de la main contre la matière, donc de la main contre le dur ou contre le mou. Et dans cette dialectique, il y a un enrichissement de l'être qui est clair.
Et là, du coup, ça n'a pas une fonction pour subvenir à tes besoins, quelque chose comme
si,
ça.
Parce que le forgeron, il forge des outils. D'accord. Qui vont servir à labourer le champ, par exemple.
Okay.
Mais dans l'activité du forgeron, dans l'activité positive, quand le forgeron, il a peut-être la chance de rêvasser à son travail, rêvasser, c'est le mauvais mot, mais de vivre positivement son travail, et est-ce que ce travail, du coup, reste du travail? Est-ce que ce travail, il ne se transforme pas en fer? Et où en faire, et là il faudrait inventer une autre catégorie.
Ou un artisanat, c'est-à-dire un mélange à la fois de compétences, d'art, enfin on est dans une dans quelque chose d'assez hybride.
C'est ça, exactement. Une zone du fer humain, qui pourrait être potentiellement positif. Alors j'ai pas la réponse, parce que je sais pas, ça serait trop beau. Mmh. Et c'est rare qu'un individu ait une réponse. Mais j'espère qu'il y a une voie possible, parce que s'il n'y a pas de voie possible, globalement, on est une tumeur s'il n'y a pas de voie possible. Si on est dans une voie sans issue, on ne peut pas, et on ne va pas commencer à me parler qu'on va aller sur Mars. Je pense que les ressources disponibles sur Terre ne sont pas disponibles pour terraformer Mars, par exemple. Mmh. Et que c'est une idée complètement absurde que seulement des personnes omnibulées par le progrès technique imaginent.
Ouais.
C'est pas viable. Pour l'instant, on est sûr qu'il y a une seule planète dans l'univers qui est capable de subvenir à nos besoins, c'est celle sur laquelle on est tous. Mmh. À part si vous écoutez ce podcast depuis la station internationale, globalement, tout le monde a les pieds sur Terre, et c'est un peu le seul endroit où on peut être. Et... du coup, penser le travail et penser le faire humain, C'est quelque chose d'absolument essentiel au moment, à l'instant T, parce que si on ne le pense pas maintenant, on le pensera, ça c'est déjà peut-être un peu trop tard. Et penser le faire humain, c'est aussi penser notre relation avec le non-humain. Parce que justement, dans la philosophie occidentale, quasiment tous les philosophes, en tout cas au 19e et 20e siècle, qui ont pensé le travail, l'ont pensé de manière idéalisée, en rapport avec la nature, ou alors l'ont pensé dans sa réalité sociale comme travail aliéné. Et du coup, en tant que personne qui a un peu fait de sociologie, je me dis que si, quand on étudie la réalité sociale, globalement le travail il est aliénant, et ben c'est peut-être que le travail il est aliénant. Que point. Et que le travail en tant que concept n'a pas vraiment de réalité tangible au-delà de l'aliénation. Et que la perte de sens est peut-être notre seule issue dans le travail. Et que, en fait, par exemple, on peut aussi faire un peu une chicane par l'école de Francfort où Horkheimer il parlait, il y avait cette idée de l'émancipation. C'était alors l'émancipation par le collectif, par l'individuel. Comment on s'émancipe? Est-ce qu'on s'émancipe par le travail? Et en fait, c'est des questions qui sont pas qui sont vraiment pas faciles, globalement. Et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant d'amener ce sujet, parce que c'est un sujet de dissertation qui, au premier abord, je me rappelle d'ouvrir la copie et de me dire « Ah bah tiens... »
C'est évidemment complexe.
C'est facile, en fait, justement. Ouais, on voit le sujet, on se dit « Le travail, l'aliénation, bon bah on va parler de Marx, on va dire que bah, l'aliénation c'est ça, le travail chez Marx c'est ça. » Et puis en fait, on se creuse et on se dit qu'en fait, le travail non aliéné chez Marx c'est rien. Que le travail non aliéné chez Arendt, ça n'existe pas non plus. Chez Horkheimer non plus, chez personne en fait. Moi j'ai l'impression qu'il y a peu d'auteurs qui ont réussi à imaginer une façon positive d'exister avec le monde humain. Que aujourd'hui, on commence à avoir des philosophes contemporains qui commencent à y penser et qui ont peut-être des réponses. Je ne suis pas assez calé sur la philosophie contemporaine pour pouvoir en parler. Mais j'espère qu'ils vont réussir à trouver des solutions. La suite dans le prochain épisode, peut-être.
Justement, on approche de la fin de cet épisode. Et du coup, en réfléchissant, il y a deux auteurs qui sont venus en tête quand on parle du travail et de l'aliénation. C'est Rousseau et l'état de nature.
Oui.
Donc ce moment-là où on n'a pas besoin de travailler, où juste on profite des fruits de la nature, on cueille des baies sauvages dans la vallée et on vit heureux. Et de l'autre côté, il y a Proudhon avec la propriété, c'est-à-dire l'enclos. L'enclos, la propriété, et la propriété qui va déboucher sur l'exploitation, l'aliénation, et l'exploitation de la parcelle d'abord individuellement, et puis après d'exploiter l'autre. Oui. Est-ce que ça te parle?
Oui, exactement. Je pense que encore une fois, je pense que ça confirme cette idée que le travail, à mon avis, le travail comme concept ne peut pas échapper à l'aliénation. Et qu'aujourd'hui, on travaille de manière totalement aliénée, toujours, et qu'on est, même quand on est dans des situations privilégiées, il y a une perte de sens de notre activité humaine. Et moi, j'ai l'impression que qu'aujourd'hui, en fait, on vit l'aliénation l'aliénation qui n'était pas visible des générations passées. Où, en fait, aujourd'hui, on se rend compte que le sens qu'ils ont mis sur leur travail n'en a plus, parce qu'on arrive à la fin, qu'on arrive au moment où tout ce travail accumulé de la civilisation occidentale nous met face à un gouffre sans fond de catastrophe. Et en fait, la catastrophe était déjà là, comme dirait Benjamin, la catastrophe, elle est dans le rétroviseur depuis bien longtemps. C'est en fait probablement la catastrophe. C'est le travail et le progrès. C'est le travail dans sa dimension historique d'accumulation, d'exploitation du non-humain et de transformation négative, en fait.
On en revient justement à Rousseau, la sortie de l'état de nature, et à Proudhon, la propriété.
C'est ça, exactement. Et en fait, le problème, c'est que l'état de nature, chez Rousseau, encore une fois, Rousseau, comme un bon philosophe occidental, il utilise le concept de nature, mais l'état de nature, il n'existe pas. L'état de nature, il n'existera plus, en tout cas.
Oui, c'était l'homme primitif.
Voilà. Ouais. Mais aujourd'hui, on sait que l'homme primitif, il avait déjà des outils très tôt, en fait. Et peut-être que l'accès à l'outil, que l'accès à encore une fois, je prends l'exemple des castors, que l'accès à la transformation volontaire de l'environnement, et ben, il peut peut-être se faire de façon positive, mais il doit se faire au-delà du travail comme il a été conceptualisé pendant deux millénaires par la société occidentale, dans la philosophie occidentale, et par d'autres civilisations aussi, mais en l'occurrence la philosophie est une activité éminemment occidentale. Il y a des activités intellectuelles aussi riches dans d'autres civilisations, mais la philosophie dans ses spécificités est assez géographiquement ancrée, et les conséquences de ces concepts se sont étalées un peu partout. Et voilà, du coup, peut-être que de réfléchir au travail, réfléchir à la nature, réfléchir à l'aliénation, c'est avant tout réfléchir à l'écologie, réfléchir à notre rapport au monde, en fait. Et se rendre compte que le travail aliéné, c'est probablement la seule façon de travailler. Et malheureusement, j'ai envie de dire, que le travail non aliéné, à preuve du contraire, n'a jamais existé. Et du coup, est-ce qu'on est destiné et enfermé dans l'aliénation, dans que tout faire humain, toute activité humaine, aujourd'hui, encore plus qu'avant, est prise dans le cercle infernal de la marchandisation, par exemple, et du coup d'une aliénation. Même l'art, où Hannah Arendt disait que l'œuvre d'art, c'était une voie d'issue, c'était une issue. Et ben même l'art aujourd'hui est prise dans un manque de sens total, où on est devenu dans des marchés. On fait de l'art pour la spéculation avant de faire de l'art pour
un placement.
Voilà, c'est toutes ces choses-là où toutes les catégories de faire humain ont été polluées par le travail, en fait. Polluées par
la marchandisation, c'est vrai que tu as entièrement raison là-dessus.
Voilà, par l'aliénation, en fait. Et du coup, le soin, pareil, le soin, c'est aujourd'hui, on parle à des soignants, ils vont nous dire qu'ils sont maltraitants avant d'être soignants.
Et que leur boulot n'a plus de sens.
Voilà, il y a une perte de sens totale. Et peut-être qu'en fait, le sens, il n'était jamais là. Ou alors que le sens, il était là quand le faire, il était gratuit. Ouais. Quand le faire, il n'était pas dans une logique de mercantile. Production.
Ouais, ou d'un échange mercantile.
Voilà. Voilà, du coup, la potentialité de... C'était pour ça que j'amenais ce sujet.
Donc, en bon philosophe, la réponse, c'est compliqué.
C'est compliqué et c'est...
Pierre, sois fier de toi pour une réponse comme ça.
Voilà, c'est compliqué, mais c'est nécessaire. Moi, j'ai envie de conclure sur le fait que penser à ces choses-là, c'est nécessaire, et les laisser impensées, c'est probablement pire. Qu'on est déjà un peu moins aliéné quand on se rend compte qu'on l'est.
Ouais.
Voilà. Même si on l'est quand même pas mal.
Ouais.
Voilà. Et bien, bonne journée.
Merci beaucoup, Paul.
Bon courage pour le travail.
Merci, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.